Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! D'abord condamnés à mort, ils ont par la suite été envoyés en exil, à l'autre bout du monde, dans les terres australes de l'Empire qu'ils ont combattu. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, les patriotes en exil, de la prison du pied du courant à l'Australie.
L'accusé, Hyacinthe Bellrose, est reconnu coupable de rébellion contre l'autorité et condamné à la peine de mort. Cependant, étant donné qu'il n'a pas été prouvé hors de tout doute que c'est Hyacinthe Bellrose lui-même qui a tué le notaire Jean-Michel Plessis, le tribunal recommande au gouverneur que la sentence de mort soit commuée en exil à perpétuité.
L'extrait de la série « Les fils de la liberté » d'après le roman de Louis Caron, réalisation Claude Boissol, c'était en 1982. Après les rébellions de 1837-1838, des dizaines de Canadiens français faits prisonniers ont été envoyés en exil en Australie, colonie pénitentiaire de l'Empire britannique. Pour y arriver, le voyage est long, 5 mois en mer, enchaînés dans la cale du bateau. Une fois sur place, les rebelles canadiens sont condamnés aux travaux forcés. Mais 4 ans plus tard, coup de théâtre, la jeune reine Victoria décide de leur pardonner. Les patriotes sont libres de rentrer chez eux.
Et au lendemain de la rébellion, Jean Louis de Lormier, que sont devenus vos ancêtres?
Bien, c'était une débâcle tout de suite après la rébellion. Il y avait dans 2 ou 3 prisons de Montréal plusieurs centaines de prisonniers. Éventuellement, il y en a eu 12 de pendus, dont un de mes ancêtres. Chevalier de Lorimier qui a été pendu en 1838 avec 12 d'autres. Ensuite, Chamilly de Lorimier est parti aux États-Unis avec Nelson, Papineau et une foule d'autres patriotes. Il y en a 100 qui ont été exilés aux Bermudes et en Australie. Éventuellement, quelques années plus tard, une bonne partie de ces gens-là sont revenus au pays. Et plusieurs ont fait partie de nos gouvernements et ont vu le fruit de la rébellion de 37, c'est-à-dire les institutions démocratiques qu'on a maintenant.
L'historien Jean-Louis de Lorimier, descendant du chevalier de Lorimier, c'est à notre télé, l'émission Partage du jour, le 26 novembre 1962. Ah, pour nous parler des patriotes en exil, mon invité, Gilles Laporte, historien, enseignant au cégep du Vieux-Montréal, auteur également du livre « Brève histoire des patriotes » publié chez Septentrion en 2015. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour.
J'ai l'impression qu'on connaît peu l'histoire des patriotes en exil, comme si leur mémoire était orpheline.
C'est vrai, on pense immédiatement à un Canadien errant d'Antoine Gérin-Lajoie et l'événement est assez connu. Ces détails, en revanche, échappent complètement au domaine commun. On ignore, par exemple, qu'ils sont la plupart revenus, quel fut leur périple, les raisons au juste pour lesquelles ils se retrouvent là-bas. Alors, c'est peut-être essentiellement une mémoire qui existe, mais qu'il faut rétablir dans ces détails.
Oui, ben on va en profiter aujourd'hui. Hein, c'est toujours utile de le faire, particulièrement cette Journée nationale des patriotes. Alors, qui sont-ils les patriotes?
Ben, c'est d'abord et avant tout un mouvement démocratique et nationaliste qui soulève à la fois pour une réforme des institutions parlementaires et afin de se débarrasser de la tutelle de l'Empire britannique. Donc, c'est un mouvement à la fois d'émancipation politique, nationale, des droits fondamentaux, puis en même temps une revendication du groupe canadien-français qui souhaite s'émanciper.
Oui. Alors, il y a 2 périodes, hein, 2 soulèvements, 1837-1838. Il se passe quoi en 37?
Effectivement, on dit bien les rébellions.
Oui.
Les rébellions pour décrire à la fois celles qui se déroulent en Haut-Canada, en Ontario, où il y a bel et bien eu des événements analogues, puis celles, bien sûr, au Bas-Canada, le Québec de l'époque. Mais il y a eu, en outre, un soulèvement donc à l'automne 1837 et un autre à l'automne 1838, qui d'ailleurs est moins connu. Celui de 37 est assez connu. Il s'agit d'un soulèvement au terme d'une longue période de tensions politiques, des échafourées, des bagarres qui dégénèrent en batailles rangées. On pense immédiatement aux batailles de Saint-Denis le 23 novembre, Saint-Charles le 25 et Saint-Eustache le 14 décembre 1837. Des circonstances, il y a plus de 377 personnes qui sont arrêtées, incarcérées à la prison du courant de Montréal, là, qui se trouve encore aujourd'hui au coin de Lorimier et de Notre-Dame. Oui. Et bien, des circonstances, ils vont rester là incarcérés 6 mois, sans procès, sans savoir au juste sur pourquoi ils sont arrêtés, même sans s'en doute. Et c'est finalement la fameuse amnistie de Lord Durham. En juin 1838, Lord Durham, récemment nommé gouverneur, décide d'amnistier ces gens-là en échange de la condamnation de 8 d'entre eux. De manière symbolique, ils vont être envoyés aux Bermudes. Vous me direz, il y a pire, là. Mais 8 d'entre eux vont être envoyés aux Bermudes en échange de l'amnistie des autres prisonniers. Ça permettait au gouverneur d'ainsi de ne pas avoir à tenir de procès qui aurait pu tourner l'opinion publique et créer des tensions, et ça lui permettait de régler le problème. Ben, ça va lui en apporter à lui un peu plus tard, mais dans les circonstances, ça tirait la ligne, si on veut, sur la rébellion de 1837.
Oui. Et la suivante, 38?
La suivante, évidemment, c'est la rancœur, parce que outre les arrestations, il y a eu beaucoup d'exils volontaires. On peut évaluer entre 1000 et 1200 le nombre de personnes qui décident de fuir aux États-Unis. Certains ne s'y arrêteront pas. Il y en a, par exemple, qui vont poursuivre leur route jusqu'en Argentine. D'autres vont se retrouver dans l'Ouest, où ils vont participer à la ruée vers l'or. Mais pour bon nombre, ils vont stationner à l'orée de la frontière américaine en vue d'un match revanche. Ce match revanche, prévu pour l'automne 1838, visait à envahir à la fois le Bas-Canada à partir des États-Unis, en même temps qu'au Bas-Canada lui-même se déroulerait une série de soulèvements. Alors, c'est un beau projet qui va évidemment mal tourner. Au bout d'une semaine seulement, entre le 4 et le 11 novembre 1838, les soulèvements sont éteints et l'armée britannique se livre à une puissante rébellion, à une répression, pardon.
Oui. Donc, plus forte qu'en 37 à ce moment-là.
Ah, hein? Oui, on va arrêter le double de personnes, plus précisément 875, qui sont incarcérés non seulement à la prison du Pied-du-Courant, mais également dans l'ancienne prison qui se trouvait aujourd'hui où se trouve l'Hôtel de Ville de Montréal, ainsi que dans des entrepôts près du musée aujourd'hui Pointe-à-Calière. Donc, Montréal déborde de prisonniers politiques. Il faut rapidement mener des procès. Ces procès-là vont être menés sous le coup d'une cour martiale, donc des procès de type militaire, très expéditifs, au terme desquels ben, 108 sont formellement accusés de trahison. Au bout de 2 semaines de procès, 99 plus précisément sont reconnus coupables de trahison et donc condamnés à mort.
Ah oui, donc condamné à mort à ce moment-là.
Absolument. Et puis dans l'Empire britannique, la trahison, c'est passible de pendaison. Oui. Alors donc, ces gens-là, ça vivent dans l'expectative d'être pendus. C'est quand même une centaine de personnes. On en pend effectivement 2 en décembre, 5 en janvier et à nouveau 5 en février 1839, là, dont le fameux chevalier de Delorimier. Mais ceux qui restent, les 78 quelques, attendent toujours d'être pendus, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, ils vont passer pas moins de 10 mois en prison.
Oui.
En attendant qu'on procède aux nouvelles exécutions. Il faut imaginer l'angoisse.
Oui,
avant qu'ils apprennent, finalement, beaucoup plus tard, en septembre 1839, qu'ils ne seront pas pendus, mais qu'ils vont être tout bonnement exilés en terre australe, dans une colonie pénitentiaire qui permet à la Grande-Bretagne, à ce moment-là, de se débarrasser des mécontents et des prisonniers de droit commun.
Oui, à l'autre bout de la planète. Bon, on va écouter ce qu'en disait l'historienne Hélène André-Bizier. C'était à notre télé, l'émission Le Point, en novembre 1987.
Dans les jours qui suivent, Colborne fait savoir au major Clitrow, qui préside le tribunal militaire, que les condamnations à l'exil ne sont pas légalement applicables. Désormais, dans les procès qui vont suivre, on va condamner à mort ceux qu'on aurait normalement condamnés à l'exil avec une recommandation à la clémence. Ce qui fait qu'on a eu peut-être 12 pendus, mais on a eu 99 condamnés à mort.
Ces gens ont vécu avec l'épée de Damoclès sur leur tête
pendant un certain nombre de mois. Et on ne savait jamais qui allait être exécuté. On savait, par exemple, on entendait, il y avait un climat de terreur dans les prisons. On sait que les prisonniers entendaient la nuit clouer. Alors, on leur disait en riant, on construit l'échafaud, on construit 2 échafauds, on construit 3 échafauds. Ou bien on entendait les soldats parler entre eux, dire qu'on venait de recevoir 7 cercueils. Mais qui serait pendu?
Qui? Et en tout cas, il y en a une douzaine. Mais pourquoi ce traitement différent? Pourquoi il y en a qui sont pendus puis d'autres condamnés à l'exil? C'est parce que ça faisait beaucoup, peut-être? On craignait une rébellion?
C'est une belle question. Dans le Haut-Canada, hier en Ontario, il y en a eu davantage de pendaisons. Il y en a eu pas moins de 17. Et on va voir qu'il y a même eu plus d'exilés en Australie. C'est parce qu'au Bas-Canada, le gouvernement tient clairement à maintenir l'opinion publique là, et à éviter qu'il y ait des débordements. Clairement, ça a été mentionné dans la correspondance. On voit qu'il y a émergence d'un courant rancunier, notamment de la presse anglophone, qui souhaite qu'on pende jusqu'à 50, 60. Et ça créerait clairement des conditions explosives. On voulait éviter donc que la répression soit trop sévère. On avait bel et bien mis fin au mouvement, du moins le croyait-on. Et on se disait qu'un peu de clémence, effectivement, serait bienvenue. Mais c'est pas nouveau. La Grande-Bretagne a eu dans ses autres colonies à faire face à des soulèvements analogues. On pense justement à l'Irlande, par exemple, un peu plus tôt, au début du siècle. Et c'est à ce moment-là qu'elle avait inauguré justement ces fameuses colonie pénitentiaire,
oui.
qui arrive à toute fin pratique aux mêmes fins que la pendaison, mais avec moins d'aspects spectaculaires, beaucoup moins de souffrance et d'atermoiement, et qui correspondait dans les mœurs de l'époque à une forme de civilisation, si on veut, de la condamnation. Mais les conditions, néanmoins, étaient difficiles. On l'a bien vu, on a entendu dans l'extrait. Ils n'auront en tout et partout que 48 heures pour dire adieu à leur famille et devoir se préparer mentalement à ne plus jamais revoir leur patrie ni leur famille.
Oui.
Là, ils embarquent à bord d'un bateau, bateau à vapeur qui les amène jusqu'à Québec. À Québec, ils sont incarcérés brièvement à la Citadelle, où ils vont être rejoints, nos 58 patriotes, ils vont être rejoints par 83 prisonniers du Haut-Canada, avec qui ils vont voyager, comme vous l'avez dit, durant 5 mois, dans le troisième pont, sous le quai, si bien qu'ils ont, littéralement fait cause commune, si on veut, avec ces rebelles du Haut-Canada, durant tout le voyage qui va les mener jusqu'en Australie.
Oui. On va écouter ce qu'en disait la romancière Louise Simard. Elle a écrit un livre qui a pour titre « La route de Parramatta ». C'était à notre radio, c'est en avril 1999, au micro de Jacques Lacourcière.
Ça fait à peu près 144 hommes qui sont à fond de cale, partagés en deux groupes. Et là, il y a comme des espèces de boîtes avec 4 compartiments, et ça, ce sont leurs lits. Et le long du mur, je dirais, du bateau, il y a un petit banc très, très étroit. Et c'est là qu'ils doivent se tenir pendant le jour. Alors, à un moment donné, ils
montent pas sur le pont prendre l'air.
Ils vont monter sur le pont 1 heure par jour, par petits groupes. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une rumeur de mutinerie. Alors là, la discipline est resserrée. Alors, c'est vraiment une traversée avec, évidemment, très peu à manger, du gruau et un peu de rhum pour combattre le scorbut. Mais évidemment, on s'imagine, hein, 144 hommes dans ces conditions-là, qui se lavaient jamais. Ça n'a pas été long que les puces, les poux sont mis là-dedans. Ça a été vraiment une traversée, là. Les gens en parlent, épouvantable. Et ce qui revient toujours plus tard, quand ils sont là-bas, on va revoir dans leurs journaux, ils vont dire, c'est un miracle si on n'est pas mort pendant la traversée.
Oui, on imagine bien 5 mois et demi comme ça en mer. Alors, ils arrivent finalement à Sydney en février 1840. Alors, il se passe quoi là-bas? Comment ils sont traités en arrivant là-bas? Ce sont des prisonniers.
Une des questions que je me posais autrefois, c'était mais quel chemin avait-il parcouru au juste?
Oui.
En fait, j'étais sous l'impression qu'ils avaient traversé le Pacifique à partir du Cap Horn. Mais non, ils ont arrêté à Rio de Janeiro. Il y a eu une escale technique à Rio de Janeiro. Mais si vous dire, on n'a même pas laissé la possibilité aux prisonniers même de monter sur le pont à ce moment-là.
À Rio.
Donc,
ah oui.
À Rio, pour un réapprovisionnement en eau essentiellement. Puis ensuite, vers Cap à l'Est, c'est-à-dire par le Cap des Tempêtes, l'Afrique du Sud. Mm-hmm. Et de là, traverser l'océan Indien jusqu'à la Tasmanie. Effectivement, c'était la route britannique à l'époque, parce qu'on partait généralement de Londres, on contournait vers l'Afrique, etc. Dans les circonstances, ils arrivent à Van Diemen Land, c'était l'ancien nom de la Tasmanie, dans le petit port de Hobart, où on débarque les détenus du Haut-Canada. Eux, ils vont y rester. Il y avait eu un mort de dysenterie, mais les autres sont sains et saufs. Ils arrivent dans le port, et là, ils vont séjourner de la même manière que les patriotes. On en parle peu de ces Hauts-Canadiens, mais ils vont un peu moins bien virer. Et il va y avoir là-bas des personnes qui vont être à nouveau arrêtées, puis pendues même, il va y avoir des condamnations à mort, parce que la provenance sociale des exilés du Haut-Canada n'est pas exactement la même que ceux du Québec. Ceux du Haut-Canada étaient davantage des desesperados, des aventuriers, souvent avec des anciens prisonniers de droit commun. Ils vont donc pas se comporter comme des citoyens idéaux une fois en Tasmanie. En revanche, du côté bas-canadien, on compte beaucoup de notaires, de médecins,
oui.
Pratiquement tous savent lire et écrire. C'est pas la faune avec laquelle on est habitué dans une colonie pénitentiaire. Alors, ils débarquent effectivement dans le port de Sydney en février 1840. Et de là, immédiatement, on les conduit dans un petit village à l'époque qui s'appelle Parramatta, où ils doivent essentiellement construire une route. Alors, c'est les travaux forcés. Les jambes enchaînées avec la pioche, les pelles, on imagine, là, conditions de forçat, où pendant 2 ans, tous les jours, sauf le dimanche, ils ont droit à marcher 8 kilomètres pour se rendre jusqu'à une église catholique. Ils vont devoir travailler sous les ordres de superviseurs britanniques.
Oui. Donc, une vie de prisonnier. Hein. On s'entend, ils ne sont pas là pour la découverte de l'Australie, certainement pas.
Certainement.
Ils vont y rester. Ça va prendre 4 ans avant qu'ils obtiennent des nouvelles de la reine. C'est la jeune reine Victoria à ce moment-là qui leur pardonne. Pourquoi? Pourquoi la reine leur pardonne?
Bon, d'abord, à ce moment-là, la colonie pénitentiaire, ça s'appelle New South Wales, du sud de l'Australie, elle est une colonie pénitentiaire depuis pas mal de décennies. Et ça fait beaucoup jaser en Grande-Bretagne. Les patriotes de 1837 1938, c'était intéressant, sont parmi les tout derniers condamnés à l'exil en Australie. Suite à leur passage, puis disons-le, au caractère remarquable que représentait leur visite, les services même qu'ils ont rendus à l'Australie, qui est commémoré par pas moins de 3 monuments, ils ont pu contribuer à ce que la colonie soit abandonnée sous ce modèle-là et qu'on l'abandonne dès 1840. L'envoi de nouveaux forçats en Australie. Donc, la jeune reine Victoria, évidemment, elle sert de prétexte à amnistier du beau monde, mais en règle générale, c'était un modèle qui avait du plomb dans l'aile. On s'apercevait que des colonies pénitentiaires, c'était rien de bon pour le développement, que partout, ça causait plus de problèmes que ça en résolvait, si bien qu'ils sont amnistiés, effectivement, progressivement. C'est un peu technique au niveau juridique, mais disons qu'ils passent du statut de condamné à affranchi surveillé. À ce moment-là, une fois la route de Parramatta terminée, on va les confier à des habitants qui peuvent les employer comme main-d'œuvre gratuite condition de les nourrir et de les loger pendant un nouveau délai qui va durer 7 ans jusqu'à 2 ans. Là, ils vont quand même bénéficier d'un niveau de liberté qui est plus grand. La plupart ont appris désormais l'anglais et peuvent se débrouiller aisément là-bas. À partir, effectivement, de juin 1844, ils obtiennent à peu près tous le droit de devenir citoyen de l'Australie. Évidemment, le but des colonies pénitentiaires, c'est d'abord et avant tout de peupler l'endroit, exactement. Mais nos patriotes n'ont pas eu de coup de cœur avec l'Australie, si bien que la plupart vont plutôt se mettre à ce moment-là à ramasser de l'argent, parce qu'ils peuvent partir, mais à condition de payer leur billet de bateau. Alors, on imagine à l'époque...
C'est cher à l'époque.
N'est-ce pas? Fait que c'est représenté pour bon an, mal an pour la plupart d'entre eux, 2 ans de travail qu'ici, de là. Mais ils sont habiles, intelligents. On va voir des cas où ils vont, par exemple, imaginer le premier four à pain souterrain sur le modèle québécois qui est inauguré en Australie. Il y a même une plaque là-bas, ici, le premier four à pain qui est dû aux exilés canadiens, etc. Ils vont faire des sous. Ils vont même lancer quelques entreprises, des épiceries, tout le reste. Si bien que la plupart sont en mesure de rentrer, de payer à tout le monde leur voyage jusqu'à Londres. Pas directement à Bas-Canada, il n'y a pas de liaison régulière entre Sydney et Montréal. Et donc, d'abord jusqu'à Londres. Mais là, ils se retrouvent à peu près tous à Londres en 1845, fauchés. Ils n'ont plus de ressources. Et c'est à ce moment-là que le Québec, le Bas-Canada, va venir à leur secours.
Ah oui. En quoi?
Essentiellement,
en payant,
il va y avoir une organisation de charité, la Société de survivance du maire de Montréal, Édouard Raymond Fabre, qui lève partout au Québec, lors des services religieux, une quête spéciale pour payer le voyage du retour des exilés de Londres à Montréal. Ça va être une très belle entreprise. J'ai vu des quêtes menées jusqu'à Malbaie, jusqu'au Saguenay, menées afin de secourir les patriotes. Alors, l'argent est envoyé sous forme de sauf-conduit vers Londres, des chèques de voyage, littéralement. Et à partir de là, la plupart vont pouvoir rentrer. C'est très émouvant parce qu'ils rentrent par petits groupes au fur et à mesure qu'ils ont réussi à payer leur veillée en Australie. Et ils arrivent, ils sont retrouvés dans leur paroisse où on les accueille comme des héros, à tout le moins, en tout cas, comme des curiosités qui ont traversé, pensons-y bien, qui ont fait le tour entier de la planète.
Oui. À l'époque, en plus. Hein. Mais bon, ils ne vont pas tous revenir. Il y en a qui vont... Il y en a un, en tout cas, qui reste en Australie, assurément.
Alors, des 58, il y en a 4 qui ne reviendront pas, probablement normal. Parlons du plus sympathique, là, Louis Bourdon, qui va se sauver. Il va se sauver durant son incarcération. Il va devenir marinier à bord d'un baleinier français. Il va écumer le Pacifique avant de rentrer plus tard au Québec, où il va devenir le premier maire de la ville de Farnham. Deux, malheureusement, vont vraiment mourir dans des circonstances dramatiques, notamment Pierre Ignace Chèvrefils, un type de Sainte-Martine, très gros, très grand, plus de 6 pieds, qui va mourir littéralement de faim. Les rations de prisonniers ne lui suffisant pas, il va se nourrir la nuit, sans le dire à personne, de blé d'Inde à vache cru, perçu dans un silo à côté. Il va mourir au bout de 3 jours de convulsions intestinales. Ça a été une mort atroce. Et on a même conservé la lettre que ses collègues de prison, ses camarades, écrivent à sa veuve en lui disant « Pierre Ignace est mort hier dans mes bras. Il vous laisse veuve avec vos 5 enfants. Il est mort avec tous les services de la religion, etc., etc., mais en disant bien que ses camarades sont autant figés que vous, etc. Une lettre pleine de fautes d'orthographe, mais extrêmement touchante à ce propos de la mort de ce patriote en exil. Il y a le cas, évidemment, de Joseph Marceau, vous l'avez bien mentionné, le seul qui est pris racine. Il se faisait appeler Petit Jacques. Il est devenu veuf durant son exil, donc de son épouse de Napierville, et il va à ce moment-là convoler avec une veuve de Sydney assez bien nantie, qui avait une terre. Il va avoir une nombreuse généalogie. Le bottin téléphonique de Sydney est plein de Marceaux. D'ailleurs, ses descendants lui rendent encore hommage. Il a un beau petit monument sur la terre familiale là-bas. L'Australie se souvient des exilés canadiens.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Hein, dans tous les cas, en Australie, on se souvient d'eux. Puis pour preuve, justement, l'arrière-arrière-petit-fils de Joseph Marceau à Sydney, ça c'était lors d'un reportage en 2000 lors des Jeux olympiques, suivi de la romancière Louise Simard, qui s'était rendue là-bas justement pour son livre La route de Parramatta, toujours à notre radio en 99.
Il est arrivé ici en février 1840 et a épousé Marie Barrett. Ils ont eu 11 enfants. Il savait en embarquant sur le HMS Buffalo en direction de l'Australie que sa femme était décédée alors qu'il était en prison à Montréal. Il a laissé 4 enfants derrière et ne les a jamais revus.
Là-bas, ils ont vraiment laissé leur marque.
C'est vrai?
Oui. D'abord, on ne peut pas lire un livre sur l'histoire de Sydney sans qu'il y ait un chapitre sur les exilés canadiens. Déjà, il y a ça. Ensuite, il y a une rue qui s'appelle la rue Marceau, du nom d'un Canadien, d'un exilé qui est resté là-bas. La baie sur la rivière Parramatta, où ils ont été gardés pendant 18 mois, ils ont appelé ça la baie Canada, en souvenir des exilés. Et le long de cette baie, il y a une promenade qu'ils ont aménagée avec des fleurs. Et dans la promenade, il y a une espèce de rocaille où il y a un monument qui est consacré aux Frenchmen qui sont venus travailler ici pendant 2 ans parce qu'ils s'étaient rebellés contre l'autorité britannique.
Comment vous l'expliquez, ce souvenir en Australie, le fait que l'Australie se souvient comme ça de ces Frenchmen?
C'est une belle question. J'ajouterais qu'il n'y a pas un, mais 3 monuments. Il y en a un à Sydney, à Parramatta, il y en a même un à Hobart, en Tasmanie. Le bon souvenir, parce qu'ils parlent anglais, français, et qu'ils savent écrire, et donc ils vont servir beaucoup de confidents, d'écrivains. Les écrivains publics, à l'époque, étaient très courus dans une colonie pénitentiaire où le taux d'alphabétisation ne devait pas excéder 15%. Ah ouais, on imagine là, comment ils sont respectés et honorés. Ils inaugurent aussi, comme je vous disais, la fin de ce processus-là pour l'Australie, ça va tourner la page. Lorsque les derniers partent, on parle même d'une innovation, parce qu'ils étaient les premiers depuis la révolte irlandaise à être là, non pas pour des raisons de droit commun, des criminels, des voleurs, mais bel et bien pour avoir combattu pour un idéal. Ça va inspirer notamment une école historique qui considère que les idées de liberté, de gouvernement responsable, d'émancipation coloniale même, auraient été en partie transplantées par ces exilés canadiens.
Intéressant. Puis, c'est vrai qu'en Australie aussi, bon, l'idée de se rebeller, en tout cas pour certains, contre l'Empire britannique, c'est intéressant.
C'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, ça a donné lieu à un film extraordinaire qui va bientôt paraître sur nos écrans, un film de Deck Richards qui s'intitule « Baie des exilés », qui raconte toute cette épopée-là. Puis notamment, on est marqué par la vénération, littéralement, dont tous les restes des patriotes sont l'objet là-bas. Imaginez, on a même retracé l'épave du HMS Buffalo, le bateau qui a servi à conduire les Patriotes jusqu'en Australie. Il est aujourd'hui conservé dans une baie où il a échoué en Nouvelle-Zélande et d'où, cette année même, le gouvernement néo-zélandais a tiré 3 croix de bois. 3 croix, honorant les exilés canadiens. L'une va être conservée en Nouvelle-Zélande, l'autre va être confiée à l'Australie et une dernière a été cédée au Québec. Ouais. Elle est inaugurée cette année à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes de 2023 et elle va figurer à la collection permanente de la Maison nationale des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu.
Ouais. Façon de rappeler, cette histoire importante et ces exilés dont on se souvient peu, en tout cas ici, j'ai l'impression, mais merci beaucoup de nous l'avoir raconté. Mon invité, Gilles Laporte, historien, enseignant en histoire au Cégep du Vieux-Montréal et auteur également d'un livre qui a pour titre « Brève histoire des Patriotes » publié chez Septentrion en 2015. Merci beaucoup.
Au plaisir.
Ici Maxime Coutier, merci d'avoir été là. Bonne soirée, à une prochaine. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.